10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bienvenue chers auditeurs, c'est le 33e numéro de Le Monde ne suffit pas, votre émission de géopolitique qui analyse en profondeur les sujets qui marquent l'actualité internationale et font la une de vos journaux, avec l'expertise de spécialistes, souvent issus du milieu universitaire, parce que le monde ne suffit pas. Nous consacrions un numéro au groupe terroriste Daesh dans une émission intitulée Daesh, genèse et expansion d'un fléau. Nous continuons cette semaine de décortiquer cette nébuleuse djihadiste si médiatique, parce qu'il y a vraiment de la matière, et pour cela je ne l'ai pas viré depuis la semaine dernière. Je suis toujours accompagnée de Thomas.
Mais trop d'honneur, Céline, vraiment merci de m'avoir regardé. Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thomas. Tu es toujours chargé de faire des zooms, des approfondissements sur des points précis liés au sujet de l'émission. Quel thème vas-tu aujourd'hui aborder ?
J'aurai une comparaison entre deux articles publiés mi-mars, à une semaine d'intervalle dans New Statesman. Le titre du premier, How Islamic is the Islamic State. Et promis, ma revue de presse sera en français et non en anglais. Parce que d'une part, vu mon accent, j'aurais vraiment peur que vous ne me compreniez pas, chers auditeurs, et parce que d'autre part, je ne voudrais pas trop parler anglais devant toi, Céline. Comment tu prononces le titre ?
How Islamic is the Islamic State.
Voilà.
D'accord, alors c'est à découvrir tout à l'heure. Et pour nous accompagner au Moyen-Orient, comme la semaine dernière, c'est Fabrice Ballanche qui a pris place derrière le micro de Transistor. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour Fabrice Ballanche. Alors depuis qu'on s'est quitté il y a quelques semaines, hein, ça n'a pas changé, enfin je l'espère pour vous. On va le vérifier quand même. Vous êtes toujours bien maître de conférence à l'université Lyon 2 et directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Oui, ça va, oui, c'est
oui.
ça.
Oui, c'est toujours bien vous qui avez publié en 2013 un atlas du Proche-Orient arabe qui dessine l'unité. La diversité de l'ancien Bilad el-Cham.
Oui.
Oui. Et enfin, je rajoute que vous avez été responsable de l'Observatoire urbain du Proche-Orient à l'Institut français du Proche-Orient, IFPO. Entre 2003 et 2007, vous avez effectué des travaux d'expertise sur la question de l'eau, de l'environnement au Proche-Orient, c'est ça ?
C'est ça.
Alors Thomas n'a pas dit de bêtises, ça lui change de son émission des Gones. Mais il est temps d'ouvrir ce 33e numéro de LMNSP que nous avons choisi d'intituler « Les visages de Daesh, État, Califat, Entreprise ou Réseau social ». Au sommaire, trois parties, parce que deux c'est bien, mais trois c'est mieux.
Oui.
Nous nous demanderons d'abord si Daesh est bien un État islamique, puis nous examinerons ce qui fait du groupe terroriste une entreprise de l'anti-monde, entre pétrole, raquettes et trafic en tout genre. Enfin, nous irons sur les réseaux sociaux voir le terrorisme 2.0. Voilà pour le sommaire, cap sur le Moyen-Orient.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Alors on commence ce tour d'horizon par s'interroger sur les liens entre la structure étatique de Daesh et sa participation à une vision rigoriste et inconditionnelle de l'islam radical. Donc tous les observateurs et les analystes qui s'intéressent à l'État islamique s'accordent sur un point. Daesh est l'organisation terroriste la plus sophistiquée et la mieux organisée qui ait jamais existé. On va justement s'intéresser à cette organisation soi-disant étatique. Est-ce que d'abord, en quelques mots, Fabrice Ballanche, vous pourriez nous présenter un peu plus celui qui s'est proclamé calife, c'est-à-dire Abu Bakr al-Baghdadi. D'où vient-il déjà ?
Oui, Abu Bakr al-Baghdadi, bon, bah, c'est un Irakien et il est rentré donc dans l'organisation de Zarqawi, hein, Al-Qaïda en Mésopotamie à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et il est monté dans la hiérarchie et lorsque l'organisation a été démantelée, contenue à partir de 2006, lorsque le général Petrus avait lancé sa contre-offensive, contre-insurrection, le mouvement s'est mis en sommeil, une cellule dormante, et à la faveur de la crise syrienne, eh bien, à partir de 2012, il est passé avec armes et bagages combattant en Syrie, où il a réussi à prospérer.
Alors le pouvoir de décision n'est pourtant pas centralisé entièrement dans ses mains. Abu Bakr al-Baghdadi est entouré de deux députés, donc Abu Muslim al-Turkmani qui régit les opérations en territoire irakien et Abu Ali al-Anbari qui s'occupe du territoire syrien. Viennent ensuite les ministres rassemblés au sein de cabinets chargés de réglementer tous les aspects de la vie quotidienne et de l'administration des territoires. Parmi eux se trouve un cabinet dit consultatif, un conseil de la charia extrêmement puissant puisque ses membres, qui sont des mouftis, c'est-à-dire des religieux de haut rang, supervisent les discours du calife et le conseil sur les affaires juridiques réglées en fonction de la charia. L'autre cabinet plus exécutif s'occupe de la partie militaire, c'est-à-dire vraiment des actions sur le terrain, des stocks d'armes et de munitions, du budget de l'armée, etc. Plus bas encore dans cette hiérarchie se trouvent les gouverneurs responsables de l'application des ordres ministériels à la tête de 7 provinces, dont 4 en Syrie et 3 en Irak, qui sont appelés des wilayas. À leur côté se trouve également un juge islamique. Les gouverneurs s'assurent de la bonne marche des provinces grâce à d'autres intermédiaires, près de 20 000 à 30 000 hommes et femmes fidèles à Daesh. Alors c'est une fidélité qui a un prix. Aujourd'hui, Daesh est le groupe terroriste qui rémunère le mieux ses membres avec des salaires entre 200 et 2000 dollars par mois.
Daesh est une organisation totalitaire. On le voit dans ses manifestations, dans son organisation. Ça passe par l'endoctrinement des gens. Et justement, l'objectif est d'éviter une fragmentation. Ce que ne parvient pas à faire Al-Nusra, qui est extrêmement divisé. Donc effectivement, Baghdadi n'a pas tous les pouvoirs puisqu'il y a ses adjoints autour de lui pour les actions militaires, les actions religieuses. Il est encadré évidemment par la charia. On ne note pas dans le cœur de la structure de division. Ce qu'on peut noter, c'est au niveau des territoires qu'il contrôle, parmi les populations qu'il contrôle, des tribus qui de temps en temps se rebellent Bien contre sûr. Son autorité. Et justement, l'objectif de la contre-insurrection serait d'utiliser ces tribus contre Daesh. C'est ce qu'avait fait le général américain en Irak, qui avait assez bien fonctionné. Mais justement, Daesh, al-Baghdadi ont tiré profit des erreurs, de cette expérience de 2006 pour justement éviter aujourd'hui que les tribus ne soient utilisées contre lui, soit en les éliminant physiquement si elles lui résistaient, mais surtout en intégrant les membres des tribus dans son organisation, en allant voir le chef de la tribu, en lui demandant sa fille pour la marier avec un des émirs de Daesh, de manière à ce qu'il y ait une alliance matrimoniale qui fasse une alliance, et puis demandant les fils, justement, de ces chefs de tribu, qui soient engagés dans les combattants de Daesh, qui vont devenir d'ailleurs des responsables de Daesh, de manière à vraiment lier la tribu avec le cœur de l'organisation.
Alors, vous avez parlé d'un État totalitaire. À l'inverse, on a quelqu'un comme Jean-Pierre Filiu, qui est professeur à Sciences Po, spécialiste du djihadisme, qui parle au contraire d'un fantasme, d'un effet de propagande et de projection de nos propres schéma de pensée occidentaux sur lui. De fait, selon lui, on n'assisterait pas à la naissance d'un État ou d'une nation, mais au contraire, on aurait une simple, entre guillemets, machine de guerre qui se développe d'elle-même à la manière d'une tache d'encre. C'est-à-dire que les recrues sont chargées de faire d'autres recrues, elles sont encouragées à prendre des butins sur les populations, etc. etc.
Alors, c'est une organisation totalitaire. C'est pas un État totalitaire comme l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, ça c'est sûr. En revanche, évidemment, il aurait tendance à vouloir devenir cet État totalitaire comparable à l'Allemagne nazie. Qu'il y ait beaucoup de fantasmes sur Daesh, d'accord, mais on a tout de même une réalité, c'est-à-dire une organisation totalitaire qui arrive à se territorialiser et à s'intégrer véritablement dans la population locale, parce qu'il épouse justement les combats de cette population locale contre les chiites, contre les kurdes, contre le régime de Bachar el-Assad.
Alors on va maintenant entendre Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, dans le documentaire diffusé par Arte intitulé « Daesh, naissance d'une organisation terroriste ».
Il y a une sorte de transgression incroyable. Il y a un défi absolument gigantesque lancé aux États sunnites classiques, enfin, issus de la décomposition de l'Empire ottoman, en prétendant en constituer un califat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de l'installer de façon territoriale. Donc de faire en sorte que ce soit une sorte d'État.
Donc Daesh se trouve aujourd'hui confronté à la gestion territoriale de l'espace qu'il a conquis. L'organisation doit désormais aussi gérer les systèmes de transport, gérer le ramassage des ordures, la distribution d'électricité. Il en va, comme vous l'avez dit, de sa légitimité et de son avenir aux yeux des populations locales. Par exemple, les déplacements de véhicules et de camions entre les provinces sont autorisés tout en étant soumis à des contrôles fréquents et à des taxes à hauteur notamment de 10% de leur cargaison. Alors, l'État islamique pour vous est-il alors un État viable, ou en tout cas une organisation qui se veut étatique, du point de vue de son fonctionnement pour l'instant ?
Son fonctionnement est assez lâche, hein, finalement. Ils savent très bien qu'ils sont incapables de gérer le territoire comme un véritable État, tout du moins aujourd'hui. Donc, leur objectif, il est surtout de faire régner la justice à travers les cours islamiques. Hein, ce sont les cours islamiques qu'ils vont mettre en place dès leur arrivée dans les territoires. C'est facile, il y a la charia, on s'appuie dessus, des juges qu'on va nommer. Et ça, les populations, elles aspirent justement à ce que justice soit rendue. Et une justice qui est rendue de manière extrêmement rapide, extrêmement simple, en faveur notamment du petit peuple. Petit peuple qui a toujours été en fait laissé pour compte de la justice dans l'État irakien, dans l'État syrien, qui était gangréné par la corruption, et donc qui était victime finalement de la corruption et du pouvoir judiciaire. Donc ça fonctionne. Et puis ensuite, c'est le prélèvement des impôts de manière à pouvoir redistribuer à la population. Alors 10%, oui, c'est le zakat en fait, c'est l'équivalent de l'aumône que tout musulman doit donner à l'imam, au calife, pour ensuite que cet argent soit redistribué aux pauvres.
Mais il manque aussi de personnel spécialisé. L'organisation a besoin, je ne sais pas, de médecins, d'ingénieurs, notamment pour faire tourner son état.
Oui, alors justement, il compte pour cela sur les ONG islamiques, pour s'occuper du social et de la médecine. Et il se réfère en cela à Abou Moussab al-Souri, un de leurs idéologues, qui encourageait justement Daesh, ou les mouvements comparables, à recruter sur les campus occidentaux. Abou Moussab al-Souri, c'est un Syrien d'Alep, qui a fait ses études en France d'ailleurs, à Nancy, et qui a vu effectivement que la qualité des études supérieures en Occident. Et donc il sait très bien que les djihadistes locaux ne sont pas capables de gérer des institutions, ont une formation limitée, et par conséquent, il encourage les Français d'origine musulmane ou les convertis, ou les Anglais, Espagnols, etc., à venir rejoindre Daesh, et on va leur confier des postes de responsabilité. D'abord, tout ce qui tourne autour de la communication, par exemple. Hein, ils savent très bien gérer les médias, et donc on va leur confier ce genre de choses.
Alors, vous l'aviez dit plus tôt, le quotidien sous Daesh, c'est aussi l'application de la loi islamique, la charia, avec des tribunaux islamiques investis dans chaque ville contrôlée. C'est bien le lien entre islam et l'État, selon Daesh, que nous allons maintenant évoquer. On le sait d'ailleurs assez peu, mais la vocation première de Daesh n'est pas avant tout d'ordre militaire, mais religieuse. C'est la première justification du groupe terroriste. Daesh puise ses racines dans une vision de l'islam médiéval à dimension eschatologique. Oui, on parle bien de la fin des temps et de croyances millénaristes qui sont fermement ancrées dans les esprits des djihadistes. Selon un hadith, c'est-à-dire un texte qui rassemble les dits et les faits du prophète recueillis par des témoins, Dabitch, un petit village situé actuellement en Syrie, serait le lieu d'une dernière grande bataille entre les armées de Dieu et les envahisseurs romains, c'est-à-dire byzantins, pour infliger une ultime défaite à Satan. Alors, cette rhétorique apocalyptique fait aussi partie de ce qui séduit beaucoup de ralliés à Daesh. Pourtant, un débat fait rage en ce moment dans la presse étrangère notamment. À quel point l'État islamique est-il islamique? C'est sur cette question que Thomas va maintenant revenir. À propos de l'idéologie religieuse de Daesh, tu t'es intéressé à deux articles parus à une semaine d'intervalle dans l'hebdomadaire britannique de gauche, The New Statesman.
Oui, c'est ça. Alors, le premier date du 10 mars, Céline, a été rédigé par Mehdi Hassan, présentateur d'Al Jazeera anglais et contributeur régulier à News Stateman. Le titre de son article, donc, « How Islamic is Islamic State ». Désolé, chers auditeurs, j'ai toujours le même accent briard que tout à l'heure. Quand je parle anglais, c'est pas mieux quand je parle arabe, vous allez le constater. Le 17 mars, c'est Tom Holland, un auteur, entre autres, de « In the Shadow of the Sword », dans lequel il présentait la civilisation islamique arabe comme responsable du déclin des empires perses. Ces byzantins qui répondaient à cet article dans le même magazine, Céline.
Et alors, que faut-il en conclure? À quel point l'État islamique est-il islamique?
Alors, pour Mehdi Hassan, lui-même musulman pratiquant, hein, c'est clair, la religion joue un rôle limité, voire inexistant dans le processus de radicalisation. C'est une excuse plutôt qu'une raison, écrit-il dans son article, dont je vous traduis certains passages. Et de citer le témoignage d'une journaliste d'Europe 1, Didier François, hein, qui avait été enlevé le 6 juin 2013 dans le nord d'Alep, où il enquêtait sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. L'otage était notamment passé dans les mains de l'État islamique et dans un entretien à la CNN, il parlait d'un royaume érémitique dans lequel rares étaient ceux à s'y être rendus qui étaient revenus. À propos des discussions avec ses geôliers, le français a cette phrase, il martelait ce en quoi il croyait, plus qu'il ne nous enseignait le Coran, tout simplement parce que cela n'avait pas grand-chose à voir.
Donc les terroristes ne respectent pas le Coran?
Non, alors soit ils le déforment, soit ils le connaissent mal, voire souvent ils n'ont pas de rapport direct avec lui, mais ne connaissent son message que par des résumés partiels et partiales, sorte de Coran pour les nuls, complètement biaisé par l'idéologie wahhabite d'une part, mais l'idéal terroriste d'autre part également. Et ce n'est évidemment pas propre à Daesh, Ali Soufan, ancien membre du FBI, agent libano-américain, racontait dans son livre paru en 2011, The Black Banners, que lorsqu'il fut amené pour la première fois à interroger des membres d'Al-Qaïda. Il avait constaté qu'il pouvait citer par cœur Ben Laden dans le texte, mais que lui, il en savait plus que sur le Coran. Cette observation, elle rejoint d'ailleurs une note de briefing classée confidentielle du MI5 que le journal The Guardian avait obtenue et publiée, dans laquelle on pouvait lire qu'une grande partie des terroristes, c'était en 2008, n'étaient pas des pratiquants réguliers et que l'on pouvait même les considérer comme des novices sur beaucoup de questions doctrinaires. Une information que confirme d'ailleurs l'achat presque incroyable mais pourtant vrai effectué par Mohamed Hamed et Youssouf Sarwar, deux jeunes Anglais musulmans de Birmingham, juste avant leur départ pour la Syrie, où ils devaient rejoindre le groupe djihadiste Kaitib al-Muarijem, d'un exemplaire de l'Islam for Dummies et aussi The Coran for Dummies, le Coran pour les nuls, littéralement. Arrêtés, ils ont été condamnés à 13 ans de prison en décembre 2014.
Alors tu soulignais tout à l'heure que Mehdi Hassan était lui-même un musulman pratiquant, mais pourquoi cela ?
Pour lui, la lutte contre Daesh, elle est autant politique ou idéologique que quasiment affective ou identitaire, je pourrais dire. Not in my name, rappelez-vous, chers auditeurs, c'était ce slogan repris sur les réseaux sociaux par les musulmans des quatre coins de la planète pour s'insurger contre la barbarie de Daesh et signifier au monde entier que on pouvait être musulman et pas islamiste et pas terroriste. Et bien, c'est en gros ce que dit Mehdi Hassan dans son article, je le traduis. Il est scandaleusement inexact et injustifiable sur le plan empirique, pour ne pas dire insultant pour les 1,6 milliard de fidèles non violents de l'islam sur la planète, de prétendre que l'État islamique est islamique.
Alors ce qui est paradoxal pourtant, c'est que Daesh participe à l'explosion des discours négatifs sur l'islam, alors même qu'il est lui-même contraire à l'islam sur bien des points.
Oui, oui, et c'est pourquoi, pour Mehdi Hassan, accorder ne serait-ce qu'un minimum de sincérité religieuse à Daesh et lui fournir une légitimité et une reconnaissance réinvestie par sa propagande comme outil de recrutement. La lutte contre Daesh, elle doit se faire idéologique pour dénouer ce lien entre que l'organisation terroriste a elle-même tissé de manière stratégique entre elle et l'islam. Elle prétend s'en faire le héros et récupère au passage l'autorité inhérente à une religion pratiquée par plus d'un milliard et demi d'hommes et de femmes sur Terre. Face à ce danger, on comprend qu'en septembre 2014, 120 théologiens de l'islam aient co-signé une lettre ouverte de 18 pages adressée à al-Baghdadi, écrite en arabe et qui représente une critique point par point de l'idéologie et de l'action de Daesh au regard du Coran et des autres textes classiques de l'islam.
Et du coup, qu'en est-il de la réponse de Tom Holland ?
Alors je vais être rapide parce que Tom Holland mélange tout. Il convoque la contre-réforme, il en appelle aux théologiens musulmans à faire aujourd'hui leur contre-réforme, alors même que les contextes géopolitiques, la structuration des institutions religieuses sont très différentes entre l'église romaine du XVIe siècle et le monde musulman d'aujourd'hui. De même, Tom Holland, il laisse entendre que Daesh trouverait une justification à ses actions monstrueuses dans les textes sacrés, alors que c'est plutôt dans les références historiques qu'il faut trouver cela. Ainsi, Muhammad avait détruit les statues païennes de la Mecque. Pourquoi l'État islamique ne serait-il pas islamique lorsqu'il détruit les statues du musée de Mossoul ? Ben non, c'est juste qu'il reproduit un fait historique, pas qu'il y a une réhabilitation idéologique et sacrée derrière. Tom Holland conclut alors, je le cite, « Si l'État islamique devait être qualifié comme un phénomène sans lien avec l'islam, il faudrait avec urgence dresser un mur imperméable entre les deux. Pour l'instant, je n'arrive pas à le voir. » Un avis qui mérite, il me semble, d'être nuancé.
Merci Thomas pour cette mise en parallèle très éclairante. Et c'est la fin déjà du premier volet de ce 33e numéro de Le Monde ne suffit pas. Merci à Fabrice Ballonge pour sa présence, merci à toi Thomas pour tes chroniques et merci à ENS Média pour leur travail à la technique. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très vite pour le deuxième volet de ce 33e numéro. On évoquera deux autres visages de Daesh, l'entreprise mafieuse et le terrorisme à l'heure d'Internet et des moyens de communication modernes. Quant à notre bibliographie, vous la retrouvez en ligne sur la page de l'émission avec des liens actualisés et augmentés. N'hésitez pas surtout à nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions ou de vos critiques. En attendant, passez une très bonne semaine sur Transistor, en espérant que jamais le monde ne suffira.